Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens en cette belle journée du 20 juin 2018. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon 20 juin Hélène.
Ça va?
Ça va très bien, vous?
Oui, en cette dernière journée de printemps. Demain, ce sera la plus longue journée.
La plus longue journée de l'année, oui, qui est aussi, je crois, la journée de la paresse.
Oui.
Parce qu'on peut prendre le temps de prendre le temps, vu qu'on a quelques secondes de plus
oui,
dans
journée de la
soleil.
Lenteur.
Merci.
J'imagine que vous allez en parler dans vos éphémérides de demain.
Ben, je n'en parlerai pas dans mes éphémérides de demain, n'étant
oh
pas
non,
le metteur en
vrai.
Onde du jeudi, mais
oui.
À parier que, bon, si Mathieu ne vous en fait pas part...
Je vais m'en rappeler.
Absolument. 20 juin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Donc, c'est quand même une journée qui a toute son importance et qui n'est pas dans l'oubli, car on parle souvent des réfugiés dans l'actualité. On le sait, dû aux situations problématiques qui se passent un petit peu partout à travers le globe. Sinon, l'histoire, un 20 juin 1791... Ah oui, petite anecdote fort sympathique qui n'est pas sans rappeler le deuxième volume des aventures des Trois Mousquetaires. Habillé en domestique, Louis XVI et sa famille quittent les Tuileries pour aller rejoindre une armée royaliste à Metz. Mais le roi sera reconnu à Sainte-Menehould, intercepté à Varennes et puis ramené à Paris.
Eh bien, il voulait s'enfuir.
Oui, il voulait s'enfuir. La monarchie n'en menait pas très très large à cette époque. Le roi n'était pas si populaire que ça, donc il a tenté de se sauver de Versailles. Et puis,
mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. 1837, à la mort de son oncle Guillaume IV, Victoria de la dynastie Saxe-Cobourg-Gotha devient reine d'Angleterre. 1840, brevet accordé à Samuel Morse pour l'invention du télégraphe électrique. 20 juin 1872, fondation des Archives nationales du Canada. 1882, aux élections fédérales, victoire des conservateurs de Johnny MacDonald. 1943, toujours un 20 juin, découverte en Ungava du cratère du Nouveau-Québec, d'un diamètre de 3,5 km et d'une profondeur de 425 mètres. 1946, Fred Rose, député du comté fédéral Montréal-Cartier, est condamné à 6 ans de prison comme espion pro-soviétique et à noter, il est le seul de l'histoire du Canada à avoir été élu sous la bannière communiste. 20 juin 1948, début au réseau CBS du Ed Sullivan Show. 1956, Maurice Duplessis gagne ses dernières élections générales. 1963, pour prévenir la guerre déclenchée par erreur, et on sait que ça pourrait arriver encore aujourd'hui, Washington et Moscou adoptent l'idée d'un lien direct, le téléphone rouge, tel que vu dans dans la télésérie
de
James Bond ou même dans la série de Batman avec le téléphone de Batman.
Oui, oui.
Ligne directe entre Washington et Moscou. Mais bon, on ne sait pas en 2018 s'il y a un compte Twitter rouge qui relie...
On dirait bien.
Quoi qu'encore là, ça ne serait pas nécessairement entre Washington et Moscou, ça pourrait être entre Washington et plusieurs autres capitales.
Mm-hmm.
1975, 20 juin, sortie du film Les Dents de la Mer, Jaws, une des premières méga-productions hollywoodiennes qui pavera la route pour d'autres films. D'autres blockbusters, comme on dit, estivaux.
On entend toujours la musique.
1985, René Lévesque annonce qu'il quittera ses fonctions de premier ministre. En 2004, toujours un 20 juin sur l'île de Montréal, 15 municipalités sur 22 tenant référendum votent pour la diffusion. Longueuil perd Boucherville sur la rive sud, perd Boucherville et Brossard. Québec demeure presque intact. En 2006, le directeur général des élections conclut que le Parti libéral du Québec et le Parti québécois ont reçu des dons illicites de Groupe Action et notamment de Jean Brault. Et en 2009, la famille Molson achète le club de hockey canadien, le Centre Bell et le groupe spectacle Gillette. Rien que ça.
9 ans aujourd'hui.
Le compositeur Jack Offenbach à Cologne est né un 20 juin, c'était en 1819.
Il s'appelait Jack?
Jacques, j'ai dit Jack Offenbach.
Ça rime, là, mais c'était plutôt Jacques, oui.
En fait, étant né à Cologne, donc Cologne étant en Allemagne, j'ignore cependant quelle prononciation.
Mais je sais qu'on entend beaucoup Jacques,
plus que Jack. Oui, mais on a tendance à franciser le nom des compositeurs.
Oui, oui.
On dit rarement Mozart, on dit
mais
plus souvent Mozart.
Jacques en allemand, je ne sais pas, il faudrait demander à notre ami Mathieu, justement.
Eh bien, plein de questions à poser à Mathieu demain. Et pour conclure, 20 juin, c'est également la date de naissance du chef d'orchestre québécois Wilfrid Pelletier, lui qui est né en 1896 et qui est décédé en 1982.
Et qui a donné son nom à la plus grande salle de la Place des Arts. Merci Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse au Texas, jeunes migrants séparés de leurs parents, Trump est prêt à tout, notre envoyée spéciale Laura Julie Perrault. Et à propos de tout ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, Patrick Lagacé, qui signe une chronique intitulée « L'Amérique m'inquiète numéro 2 ». Exclusivité, des hôpitaux font fi de vos dernières volontés. Et art, la chute de l'Empire américain, le retour en force de Denis Arcand, il propose son meilleur film depuis les invasions barbares, écrit Marc-André Lucier. Ces jours d'orage à Brownsville, ville du sud des États-Unis, de longs éclairs déchirent le ciel et des torrents d'eau s'abattent sur la route 281 qui longe le Rio Grande, frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. Malgré le mauvais temps, des dizaines de camions blancs et verts de la patrouille frontalière américaine montent la garde sur ce chemin texan, bordé de palmiers, de champs de maïs et de cactus. L'an dernier, c'est dans ce secteur de la frontière que les forces de l'ordre américaines ont intercepté le plus grand nombre de personnes tentant de pénétrer illégalement sur le territoire américain, 138 000 pour être précis. Et c'est ici, ces jours-ci, que des migrants originaires principalement du Honduras, du Guatemala et du Mexique tentent soit de demander l'asile en se présentant à un poste frontière, soit de traverser le fleuve à leur risque et péril. Parmi eux, un nombre beaucoup plus élevé de familles par rapport à l'année dernière. Selon les statistiques du gouvernement, près de 20 000 familles ont été appréhendées en avril et en mai, soit 4 fois plus que l'an passé. C'est notamment en se basant sur cette statistique que l'administration Trump justifie la politique actuelle de tolérance zéro, qui se traduit notamment par la séparation des enfants migrants de leurs parents à leur arrivée au pays. Les trafiquants d'enfants utilisent les lacunes dans les lois d'immigration et mettent en danger la vie d'une quantité innombrable d'enfants en leur faisant subir le voyage périlleux jusqu'aux États-Unis, a dit le président hier lors d'un discours devant la Fédération nationale des entreprises indépendantes, en affirmant que la crise migratoire durait depuis des décennies. À la Tortilleria Mariluz ou Mariluz, on se demande bien de quelle crise migratoire parle le président. Le commerce n'est qu'à 200 mètres de la frontière. Du stationnement, on voit d'ailleurs un segment du mur de sécurité déjà mis en place par une administration précédente pour freiner les migrants. C'est bien tranquille autour d'ici. On ne voit pas de gens passer la frontière, on voit surtout des agents de service, des services frontaliers, plus nombreux qu'avant, qui viennent manger ici, dit Cassandra de la Cruz, fille des propriétaires de ce commerce de San Benito spécialisé dans les tacos. Même son cloche du côté de Marlene A. Dougherty, une avocate qui travaille à un jet de pierre de la frontière à Brownsville. Terrence M. Garrett, professeur d'études de sécurité à l'Université du Texas à Brownsville, fait le même constat. Ce qui semble être une crise actuellement est complètement fabriqué. Avant, les autorités interceptaient les gens à la frontière. Soit ils les renvoyaient, soit ils les relâchaient aux États-Unis. Là, ils intentent des procès à tout le monde et ça crée une illusion d'abondance, note celui qui suit de près les conséquences de la politique de tolérance zéro. Donald Trump veut son mur et il est prêt à tout, même utiliser de pauvres enfants qui pleurent. Une opposition de plus en plus forte. Ardent défenseur de la politique de tolérance zéro du président Trump à l'égard de l'immigration, le sénateur du Texas, Ted Cruz, a fait volte-face en annonçant à des journalistes hier soir qu'il comptait déposer d'urgence un projet de loi pour mettre fin à la séparation des familles immigrantes. Exclusif, c'est Caroline Touzin qui signe ce texte. Ce n'est pas parce que vous avez inscrit vos dernières volontés au nouveau registre des directives médicales anticipées qu'elles seront consultées par l'établissement de santé où vous vous retrouverez en fin de vie. Et ce, même si les hôpitaux, les CHSLD et les maisons de soins palliatifs ont l'obligation légale de le faire. En fait, tout dépend de la région du Québec dans laquelle vous habitez, révèlent des données du ministère de la Santé et des services sociaux obtenues par la presse. Un patient hospitalisé à Montréal a beaucoup moins de chances de voir ses directives médicales anticipées, DMA, consultées qu'un autre qui se trouve en Estrie si l'on se fie aux statistiques transmises en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Ces disparités régionales sont très préoccupantes, affirme Maître Christine Morin, professeure titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés de l'Université Laval. Pourtant, tous les médecins de la province sont soumis aux mêmes obligations de consultation. La loi est claire, lorsque la personne n'est pas apte à consentir, la première chose à faire, c'est de vérifier si elle a des directives médicales anticipées, dit Maître Christine Morin. Alors, un peu plus loin, le ministère de la Santé et des Services sociaux est au fait des disparités et travaille actuellement à déployer des actions afin de sensibiliser les professionnels de la santé aux DMA, directives médicales anticipées, et à l'importance de consulter le registre, selon la porte-parole du ministère. Le service de police obligé d'afficher à l'externe pour trouver des inspecteurs. On est à Laval. Obtenir une promotion et accéder à l'état-major intéresse si peu de policiers à Laval que le service de police est obligé de procéder à un affichage externe. Dans une note transmise aux troupes jeudi dernier que la presse a obtenue, le directeur du service de police de Laval, Pierre Brochet, annonce qu'il doit procéder à l'affichage externe de 3 postes d'inspecteurs. Cette nouvelle démarche s'explique par le contexte actuel où 5 officiers cadres sont actuellement en congé de maladie. Nous souhaitons assurer une stabilité auprès du personnel à la suite de plusieurs mouvements depuis un an, écrit M. Brochet. Selon les informations recueillies, il y aurait au moins un autre cadre en arrêt de travail. La surcharge de travail, l'exigence de la disponibilité en tout temps, le changement d'affectation au gré de la direction, mais également les changements récents au régime de retraite, sont autant de facteurs pour expliquer la situation, selon des policiers. Des grutiers ont été aperçus mercredi matin au sortir des locaux de leur syndicat Anjou dans le nord-est de Montréal, ce qui laisse croire que de nouveau, ils pourraient ne pas se présenter sur les divers chantiers de construction pour une troisième journée cette semaine. Mardi, des ouvriers rendus mécontents par certains changements apportés à la formation imposée aux nouveaux grutiers s'étaient réunis dès 5 heures dans une salle de réception de l'arrondissement Saint-Léonard. En quittant la réunion, ils n'ont pas voulu dire si leur grève se poursuivrait ni de quoi ils avaient discuté. Leur attitude était la même mercredi matin. La grève des grutiers est considérée comme illégale par la Commission de la construction du Québec qui a annoncé qu'elle enquêtait après que des ouvriers aient affirmé qu'ils étaient entrés au travail lundi, mais qu'ils avaient été fortement incités à quitter le chantier. Et en Suède, 3 personnes sont mortes lors d'une fusillade liée au crime organisé à Malmö, ville du sud de la Suède qui connaît d'importantes rivalités entre bandes. Selon des témoins, les victimes ont été visées lundi soir alors qu'elles sortaient d'un cybercafé du centre de Malmö, la troisième ville en importance du pays, non loin d'un commissariat. Selon eux, au moins un assaillant aurait tiré à l'arme automatique, une information que la police a refusé de confirmer. 3 hommes de 19, 27 et 29 ans sont morts, selon la police. 3 blessés âgés de 21, 30 et 32 ans ont été hospitalisés. Leur identité n'a pas été révélée, mais selon le chef de la police locale, tous sont des gangsters connus de la police qui se livrent au crime organisé.
L'alarme à feu qui sonne à travers mes nuages, la tête pleine de boucan, le feu est pris dans la cabane. Ouh, personne ne me prend au sérieux quand j'écris sauf qui peut, sauf qui peut. Suis-je au bord de l'abîme? Dites-moi si j'ai.
C'est Damien Robitaille ce matin qui nous donne envie de danser, tiré de son album Univers Parallèle, paru sur Audiogramme en 2017, la pièce Sortie de secours.
Et à la une du Devoir de ce mercredi 20 juin 2018, la riposte d'Accurso-Collusion, poursuivie par Laval pour 29 millions, l'homme d'affaires conteste la loi permettant aux corps publics victimes de fraude de récupérer des sommes versées injustement. Cannabis, les sénateurs se soumettent. Le projet de loi du gouvernement est adopté à la suite d'un bras de fer entre les deux chambres du Parlement. Dragage, le port de Montréal invité à refaire ses devoirs. La couronne réclame 150 ans de prison pour sextuple meurtre à la mosquée de Québec. Le désolant recul des droits des réfugiés. Et une grande photo arquant la forme, la verve et l'espoir après la chute de l'Empire américain présentée en première mardi, hier soir à la Place des Arts. Denis Arcand renoue avec le thème de l'argent corrupteur de la maudite galette et Réjeanne Padovani et avec l'humanisme tragicomique de Joyeux Calvaire. Alors, vous avez reconnu des titres d'anciens films d'Arcand, La maudite galette, Réjeanne Padovani et Joyeux Calvaire. Et on a une photo signée Jacques Nadeau de Denis Arcand, qui était avec ses comédiens, notamment Marie-Pierre Morin, qui ont rencontré la presse hier. Le projet d'expansion du port de Montréal à contrecœur fait ressurgir le controversé dossier du dragage dans le Saint-Laurent. Le ministère de l'Environnement du Québec estime que le promoteur doit refaire ses devoirs afin de mieux évaluer les risques toxiques que représentent les sédiments qui seront dragués pour faire place au terminal de conteneurs. Et le risque pour le fleuve est bien réel, affirment les experts consultés par le Devoir. Pour accueillir des navires de près de 300 mètres de longueur au nouveau quai, le port de Montréal prévoit de retirer du fond du fleuve plus de 840 000 mètres cubes de sédiments sur une superficie de 163 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 23 terrains de soccer de la Coupe du monde. Lorsque les trois phases du projet seront terminées, la superficie draguée sera trois fois plus importante. Valérie Plante a fustigé l'opposition mardi, l'accusant de vouloir faire porter le blâme du fiasco de la Formule E à la fonction publique. « Blâmer aujourd'hui les fonctionnaires, je trouve ça petit. Ils vont s'en souvenir, et les Montréalais aussi », a lancé la mairesse au lendemain de la publication du rapport annuel de la vérificatrice générale Michèle Galipeau. Le chef d'ensemble Montréal, Lionel Pérez, s'est toutefois gardé de condamner l'ex-maire de Nicodère, estimant que les élus auraient dû être mieux informés par la direction générale des règles encadrant ce type de projet. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, reconnaît que le résultat de son parti à l'élection partielle de lundi soir a été décevant et il promet de réfléchir aux moyens de rétablir le contact avec les électeurs. Mais il rejette catégoriquement l'idée que son identité religieuse puisse expliquer la débâcle. « On est déçus des résultats. C'est évident que ces résultats montrent qu'on a beaucoup de travail à faire », a déclaré M. Singh. « Tout est sur la table. Regardez nos politiques, notre horaire de tournée au Québec, les enjeux que nous voulons soulever, passer plus de temps au Québec. » M. Singh est aussi assurément ouvert à l'idée de passer une semaine dans une famille québécoise, comme d'autres politiciens fédéraux anglophones l'ont fait pour parfaire son français et s'imprégner de la culture. Quand une journaliste lui a demandé si son turban pouvait expliquer la froideur de Chicoutimi-le-Fjord à son endroit, M. Singh s'est redit et a répété sèchement à 6 reprises « pas du tout », empêchant ainsi une question de relance sur le sujet. Son lieutenant québécois, Alexandre Boulris, a abondé dans le même sens « ce n'est pas son identité le problème, c'est plus sa notoriété ». Selon lui, le chef gagnerait à être plus connu. Une préoccupation des militants interrogés par Le Devoir est l'absence dans l'entourage du chef de stratèges ayant de bonnes antennes québécoises. Patrimoine. Des spécialistes de l'histoire du patrimoine et de l'architecture ancienne ont manifesté leur vive opposition à la destruction de la maison Legendre située à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Cette maison, construite avant 1790, est laissée à l'abandon depuis 2012. Son dernier propriétaire souhaite désormais la détruire, faute d'être parvenu à s'entendre avec un comité local voué à la préservation de cette demeure, une des plus vieilles et des plus intéressantes de la région. L'architecte Marie-Josée Deschênes s'est adressée à la municipalité. Au moment d'une expertise technique sur ce bâtiment en 2014, l'architecte avait noté que la maison n'était pas dans une santé parfaite. La maison a continué de se dégrader depuis faute d'entretien. L'expertise doit être mise à jour, mais il faudrait vraiment que ce soit épouvantable pour que ça ne vaille pas la peine de la préserver. Le rapport d'expertise estimait à 383 000 les coûts d'une restauration et d'une mise en valeur de la maison. Au nombre des autres opposants à cette destruction, on trouve la Fédération Histoire Québec, appuyée par la Société Patrimoine et Histoire des Seigneuries de Lotbinière. En tout, 15 lettres d'opposition ont été adressées à ce jour à la municipalité en vue d'une assemblée qui doit se tenir le 3 juillet prochain. Le transporteur à très bas prix Swoop, une filiale de WestJet, est prêt à décoller. Le premier avion rose et blanc de la compagnie s'envolera mercredi depuis Hamilton, en Ontario, à destination d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. Swoop, S-W-O-O-P, et des rivales comme Flair Airlines essaient de séduire les millions de voyageurs canadiens qui traversent la frontière pour se rendre aux aéroports de Buffalo et de Plattsburgh dans l'État de New York et de Bellingham dans l'État de Washington. Swoop croit être en mesure d'atteindre la rentabilité en réduisant ses coûts de main-d'œuvre en entassant 189 personnes à bord d'un Boeing 737-800 et en attirant les voyageurs qui évitent normalement les déplacements aériens en raison du coût élevé. Le cri du cœur des victimes de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a été entendu. Ottawa a annoncé mardi de nouvelles mesures pour prévenir le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport, en reprenant plusieurs recommandations des anciennes athlètes qui sont sorties de l'ombre au début du mois de juin. Pour recevoir du financement fédéral, les fédérations sportives devront notamment se tourner vers une tierce partie indépendante pour traiter les dénonciations, divulguer tout incident au ministère des Sports et offrir une formation obligatoire à tous leurs membres d'ici le 1er avril 2020. En cas de non-respect des nouvelles règles, le financement pourrait être retenu. Alors que dans leur ensemble, les pays de l'OCDE ont enregistré une baisse considérable de nouvelles demandes d'asile en 2017, celles reçues par le Canada au cours de la même période ont atteint un niveau historique. C'est ce que révèle, entre autres, la 42e édition du rapport du système d'observation permanente des migrations de l'OCDE, intitulé « Perspectives des migrations internationales 2018 », rendu public mercredi. Le gouvernement canadien a ainsi reçu 50 470 nouvelles demandes d'asile entre janvier et décembre 2017. C'est plus du double que ce qui avait été enregistré en 2016, alors que l'on comptabilisait 23 830 demandes. Selon le rapport, cette hausse est largement imputable aux quelques 20 500 demandeurs d'asile entrés au Canada sans passer par les points d'entrée désignés. Vous écoutez le quotidien des quotidiens ce mercredi 20 juin, dernière journée du printemps. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Restez là, puisque dans un petit moment, c'est la suite de l'émission avec, entre autres, la revue de presse du Journal de Montréal.
To put bad thoughts in my head. Two tickets torn in half and a lot and nothing to do. Do you miss me? Miss misery like you said. In the park, read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you had plans for both of us that involved a trip out of town to a place I seen. That you left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Do you miss me? Miss misery like you said. See me gone, then you see me
Retour en 1997 avec le regretté chanteur Elliott Smith et la pièce Miss Misery qu'on a pu entendre notamment dans le film Le Destin de Will Hunting qui avait raflé l'Oscar pour le meilleur scénario en 1997. La pièce était également en nomination pour meilleure chanson dans un film, mais 1997 était également l'année du Titanic et donc c'est My Heart Will Go On qui avait remporté la palme plutôt que cette pièce d'Elliott Smith, Miss Misery.
À la une du Journal de Montréal, Marie-Pierre Morin, que l'on aperçoit sur le tapis rouge hier soir, qui fait ses débuts au cinéma dans La chute de l'Empire américain, un film de Denis Arcand qui mérite 4 étoiles. Sur leur tablette, les pharmaciens veulent éliminer la malbouffe. Repêchage, les 5 options de Bergevin. L'Ordre des pharmaciens veut se débarrasser de la malbouffe. Des pharmacies québécoises ont déjà pris le virage santé et banni certains produits. Alors que les pharmacies ressemblent de plus en plus à des supermarchés, l'Ordre des pharmaciens du Québec lance un pavé dans la mare en invitant ses membres à cesser la vente de malbouffe dans leur commerce. C'est un article de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal. On estime qu'il s'agit d'une incohérence qui devrait être corrigée avec le temps. Ceux qui font des pas dans ce sens-là, on les salue et on les encourage, affirme le président de l'Ordre, Bertrand Bolduc. L'organisme reconnaît que son champ d'intervention se limite en principe à la vente de médicaments. Mais dans un énoncé qu'il vient de publier, l'organisme soutient qu'il est de son devoir sociétal d'encourager ses membres à engager une réflexion lorsque certaines décisions peuvent paraître contradictoires avec leur mandat de promotion des saines habitudes de vie. Deux professeurs de droit de l'Université de Sherbrooke, Mélanie Bourassa-Forcier et Marie-Ève Couture-Ménard, souhaitent que l'Ordre soit encore plus directif. Elles notent que le Code des professions interdit aux professionnels d'exercer un commerce incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de leur profession. Quoi qu'il en soit, la sortie de l'Ordre suscite un malaise évident dans l'industrie. Tant chez Jean Coutu, qui appartient depuis peu à Métro, que chez Pharmaprix, propriétaire de l'Oblast, on a refusé de commenter hier. Le proprio d'un parc aquatique aurait agressé un adolescent. La victime serait un employé de 16 ans du Super Aqua Club à Pointe-Calumet. Nous avons procédé vendredi matin à l'arrestation d'un homme de 57 ans à sa résidence de Pointe-Calumet. Le plaignant dans ce dossier est un jeune homme de 16 ans, confirmé hier Christopher Harding de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes. Selon nos informations, il s'agit du propriétaire du parc aquatique Régent-Julien Proux. Il devrait être accusé ce matin d'agression et d'exploitation sexuelle. L'adolescent aurait porté plainte au début du mois de juin pour une agression qui serait survenue en décembre dernier. « Philippe Couillard enjoint aux grutiers de mettre fin à leur grève illégale, à défaut de quoi ils s'exposent à des conséquences, prévient-il. Les travailleurs s'exposent notamment à des amendes de 200 $ par jour de débrayage. Les associations qui les encouragent à faire la grève illégale risquent quant à elles d'écoper d'amendes de 80 000 $ par jour. Le débrayage des grutiers paralyse depuis le début de la semaine plusieurs chantiers au Québec, dont celui du nouveau pont Champlain et du méga hôpital CHU de Québec. Marceau dément la rumeur et sera candidat. Le péquiste ne peut pas rester sur les lignes de côté. Après plusieurs semaines de réflexion, M. Marceau l'a confirmé à l'agence QMI hier. Le député de Rousseau assure avoir toujours la flamme de la politique et se dit prêt à retourner dans l'arène en quête d'un quatrième mandat. Avant d'annoncer publiquement son retour en politique active, M. Marceau devait régulariser une situation familiale complexe, a-t-il expliqué. Ce n'est pas un grand secret que ma situation personnelle n'est pas simple, il fallait que je trouve le moyen de continuer. Malgré cette situation quelque peu complexe, a dit celui qui a récemment vécu une séparation. Bien que la CAQ ait le vent dans les voiles, si on en croit les récents sondages, M. Marceau est serein quant à la campagne qu'il compte mener dans sa circonscription. Ça sera une belle bataille, mais je n'ai pas d'inquiétude. Je suis convaincu que les gens vont finir par reconnaître que les libéraux ne changeront jamais et que les caquistes sont une copie brouillonne et inquiétante des libéraux, a-t-il dit. M. Marceau est député de Rousseau dans la Naudière depuis 2009. Poursuite de 1,9 million contre la succession d'un assassin. La famille de Benoît Côté est encore profondément affligée par son meurtre. Ce genre de poursuite est rarissime au Québec. La folie meurtrière de Michel Dubuc en juillet 2015 avait fait les manchettes. Après avoir abattu ses deux fils à Boucherville, il s'était rendu au cabinet d'avocat de maître Benoît Côté, situé à Terrebonne, avant d'ouvrir le feu sur lui ainsi qu'une notaire sur place. Au terme de sa virée sanglante, Dubuc était retourné chez lui, puis s'était enlevé la vie avant d'incendier sa maison. Le meurtrier entretenait une relation difficile avec son ancien avocat. Le mystère plane toujours à savoir pourquoi il s'en est aussi pris à ses garçons. Une poursuite a récemment été déposée au palais de justice de Longueuil. Une poursuite a récemment été déposée au palais de justice de Longueuil en cour supérieure au nom de la succession de M. Côté, de sa femme Christine Gosselin, ainsi que leurs deux enfants contre la succession de Michel Dubuc et l'Agence du revenu du Québec, qui est liquidateur. L'avocate de la famille de Benoît Côté n'a pas souhaité commenter l'affaire puisqu'elle se trouve devant les tribunaux. Un maire prévoit 2 heures pour traverser le pont Mercier cet été. Le lien entre Montréal et la rive sud sera réduit à compter de vendredi à une voie par direction. Le maire de Beauharnois est frustré de ne pas avoir été informé à l'avance par le ministère des Transports de la fermeture cet été du pont Mercier en direction sud qui entraînera dès la fin de semaine de fortes congestions dans ce secteur. Cette situation va beaucoup affecter mes citoyens et je n'ai reçu aucune information avant la semaine dernière, déplore le maire Bruno Tremblay. La circulation sur le pont, évaluée à 70 000 véhicules par jour, passera vendredi à 22 heures de 2 à une voie dans chaque direction. Ça va refouler de partout, lâche le maire, qui a lui-même fait la navette quotidienne pendant 27 ans entre Beauharnois et Montréal. Le ministère des Transports affirme que des mesures sont prévues, comme le maintien de l'accès au pont du côté de l'arrondissement montréalais de La Salle, par la rue Early, pour les autobus de 6 heures à 20 heures en semaine. Sur la rive sud, la voie multifonctionnelle de la route 138 sera ouverte tous les jours de 5h à 20h. C'est sûr qu'une fois sur le pont, il n'y a pas de voie réservée, donc il y aura un impact, indique le porte-parole du MTQ, Benoît Lachance. Le gouvernement avait annoncé l'an dernier que le pont Mercier en direction sud, qui date de 1934, serait remplacé par une nouvelle structure. mais le MTQ n'a pour le moment aucun échéancier pour ses travaux. Et nouveau départ dans l'équipe Trump, le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, Joe Hagan, qui a joué un rôle central dans l'organisation de la rencontre à Singapour entre le président américain et le Nord-Coréen Kim Jong-un, va quitter la Maison-Blanche. M. Hagan, 62 ans, qui a travaillé sous quatre présidents républicains, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush et Donald Trump, va rejoindre le secteur privé. Joe Hagan a été un atout de poids de mon administration, a souligné M. Trump hier.
Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom.
Tiré de son album Le Fantastique Désastre, c'est Yann Perrot qu'on vient d'entendre avec la pièce Baby Boom.
Alors allons-y avec les journaux régionaux. Le Soleil, Mylène Moisan, le vieux Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Linda Boutette et Jean-Michel Bernier ont fait une visite guidée dans le Vieux-Québec. Les deux n'avaient jamais fait ça avant. Ils ont passé deux heures à marcher de la Place Royale à la Porte Saint-Louis. Ils n'ont pris aucune photo, même pas du château. En fait, ils ne gardent aucune image de ce que le guide de Xavier Chambol leur a montré. Linda et Jean-Michel ne voient rien, et la visite est justement pensée pour ceux qui, comme eux, ne voient rien. Et les autres qui sont curieux de voir comment on voit quand on ne voit rien. Jean-Michel marchait avec Tempête, son chien, guide, et Linda avec sa canne blanche, et Claudie, une amie qui l'accompagnait pour l'occasion. Quand Xavier commence sa visite, il ne dit pas « Suivez le guide », il dit « Suivez ma voix ». Dans le brouhaha de la place royale, il fallait tendre l'oreille. Linda et Jean-Michel ont l'habitude, tout comme celle de marcher à tâtons sans s'enfarger dans les dalles de pierre inégales et les trottoirs crevassés. Un défi en soi. On s'est arrêté à la batterie royale, ce petit parc qui débouche sur le fleuve. Xavier a décrit l'endroit. Les 10 répliques de canons disposées en demi-cercle. Il ne peut pas dire « Le fleuve s'arrêtait ici. Regardez où il est maintenant. » Il dit « Écoutez le bruit des autos. Évaluez la distance qu'on a gagnée sur le fleuve. » Xavier s'est approché de Jean-Michel. « Je vais prendre ta main, la poser dans la gueule d'un canon. » « C'est lisse. » Linda et Jean-Michel ont passé 2 bonnes minutes avec leurs mains à caresser la pièce d'artillerie pour en saisir chaque détail. Dans le petit Champlain, j'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas m'arrêter devant les vitrines des boutiques, seulement à leur odeur. « Il paraît que c'est vitré, » a demandé Linda quand nous sommes montés dans le funiculaire. « Oui, en tout cas, ça l'était quand j'étais voyant. » Jean-Michel a perdu la vue quand il avait 16 ans à Lévis, près de la piste cyclable où passait un chemin de fer. Un train est passé, j'étais trop proche, j'ai été aspiré. Il a subi un traumatisme crânien, le nerf visuel a été sectionné. C'était en 1995, il a encore en tête les images qu'il a vues avant. Linda, elle, n'a jamais vu, ou si peu. Quand le guide parle d'un monument, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Elle l'imagine. Comme elle a fait quand le guide nous a menés au monument de Mgr François de Laval devant le vieux bureau de poste en haut de la côte de la montagne. Jamais avant, je n'avais remarqué les fresques en 3 dimensions. 3 scènes d'époque coulées dans le métal. C'est quoi ici, dans sa main? Un parchemin. Et ce chapeau-là? La mitre de l'évêque. Avec leurs mains, Linda et Jean-Michel arrivaient à saisir l'essentiel des bas-reliefs, repérer les personnages, apprécier les broderies dans les vêtements. Et ce bol que tient une religieuse pour abreuver un enfant. Xavier suivait leurs doigts, racontait l'histoire qui était dessous. J'ai essayé. Mes doigts étaient aveugles, incapables de discerner quoi que ce soit, même pas une tête, écrit Mylène Moisan. Dans le vacarme de moteur, un camion s'est stationné près de la statue. Une entreprise de paysement venait embellir le parterre. Xavier s'est approché de la fille qui sortait avec un bac de fleurs. Est-ce qu'elles sentent bon? Un peu. Est-ce que nous pouvons les sentir? C'est comme ça que fait Xavier. Il adapte sa visite selon ce qui se passe autour quand il voit une fenêtre sensorielle, autre qu'une photo à prendre. Xavier, qui offre 8 autres visites thématiques de Québec et de Lévis avec tours accolades, a testé la formule l'an dernier avec Jean-Michel. Il faisait trop toucher. Il m'a dit « ça devient épuisant de toujours toucher ». Il faudrait prendre des pauses où on peut s'imprégner du lieu pour absorber l'ambiance. Je me suis ajustée. C'est un monde. De faire ressentir la beauté, l'histoire. Linda et Jean-Michel sont impliqués dans le regroupement des personnes handicapées visuelles. Il fallait les entendre discuter de cette ville qu'ils n'avaient jamais perçue de cette façon. Moi non plus. Pendant une pause, je me suis assise à côté de Linda. Et puis, comment tu trouves la visite? C'est vraiment bien de pouvoir faire le lien entre ce qu'on entend dire de la ville, son histoire, sa beauté, et pouvoir le toucher, de pouvoir associer quelque chose de tangible à ça. Derrière nous, il y avait le bruit des jeux d'eau de l'hôtel de ville. Jean-Michel a cru un instant qu'un orage éclatait. Il est tombé à la fin de la visite, à midi, au son des canons de la citadelle. Je suis partie un peu avant la fin, j'ai marché seule un moment dans les rues du Vieux à regarder les guides montrer Québec du bout de leurs doigts. Les touristes regardant la ville à travers l'écran de leur téléphone. J'ai fermé les yeux. Ça sentait bon le resto d'à côté. Ça sonnait la guitare mêlée au bruit des autobus et aux cris de joie des enfants. Dans le quotidien, Normand Boivin, oui au bac brun. Près de 6 citoyens sur 10 sont d'accord avec la décision de Saguenay d'opter pour le bac brun afin de récolter les matières organiques. C'est ce que révèle la dernière partie du sondage réalisé entre le 7 et le 12 juin par Segment Recherche pour le compte de Radio-Canada du quotidien. La question portait uniquement sur l'accord ou non avec la décision de Saguenay de commencer la collecte des matières organiques avec l'utilisation du bac brun au printemps 2019. Elle ne faisait pas référence à l'autre option du tri robotisé à partir du bac vert. Donc, 59,2% des 486 personnes sondées ont répondu oui et 37,7% non. Seulement 3,1% n'avaient pas d'opinion. Les différences entre les trois arrondissements se situent à l'intérieur de la marge d'erreur de plus ou moins 4,4%, mais on remarque que c'est à Jonquière où l'appui est le plus bas avec 56%, alors qu'il est le plus haut à la Baie, 63,3%. Chicoutimi est près de la moyenne avec 61%. Le président de Segment Recherche et analyste du sondage, Reynald Harvey, note un réel clivage entre les réponses, selon l'âge et le niveau de scolarité. Les plus jeunes et les plus instruits sont davantage favorables au bac brun que les personnes plus âgées et moins instruites, et on note également que ceux qui se disaient insatisfaits du travail de la mairesse Josée Néron, à une autre question du sondage, étaient également opposés à cette décision. Le bac brun avait été l'un des fers de lance du candidat à la mairie du Parti des citoyens de Saguenay, Dominique Gagnon, ce dernier menaçant les citoyens qu'il hériterait d'un bac brun s'il élisait Josée Néron. Il proposait plutôt la solution du bac unique avec le tri robotisé, comme cela se fait ailleurs au Québec. Le bac brun a finalement été adopté à la suite des travaux d'un comité présidé par le conseiller Simon-Olivier Côté. L'échantillon pour le sondage de Segment Recherche a été sélectionné à partir des échanges sur téléphone fixe et cellulaire à Saguenay. L'intervalle de confiance de la marge d'erreur est de 95% et les résultats ont été pondérés en utilisant les données du recensement de 2016 en fonction du sexe, de l'âge et de la répartition de la population dans les arrondissements de Saguenay. Cannabis médical, coup d'envoi du projet de 200 millions de dollars à Weedon. C'est dans la tribune, Mélanie Noël, la première pelletée de terre du projet de construction de serres de cannabis médical, médicinal, à Weedon, a été réalisée mardi en présence du président du conseil d'administration de MYM Nutraceutical, Eric Factor, de son chef de direction, Rob Giet, et du maire de la municipalité, Richard Tanguay. Dans un premier temps, deux bâtiments seront construits, dont une serre modèle qui servira à appuyer la demande de certification auprès de Santé Canada, processus d'obtention de la licence qui est en cours. Ces travaux seront achevés d'ici la fin novembre 2018. Alors, je demandais à Jean-Sébastien si j'avais prononcé le mot obtention ou obtentation. Alors, si j'ai dit obtentation, je voulais dire obtention. On y va donc avec la suite, le nouvelliste Paul Vermeau-Desroches. Trois-Rivières, l'émission de constat d'infraction par les policiers de la sécurité publique de Trois-Rivières sera bientôt informatisée. La direction de la sécurité publique vient en effet de faire l'acquisition d'un nouveau système de gestion des opérations policières afin de centraliser toutes les opérations dans un seul et même logiciel, impliquant du même coup la fin des constats d'infraction rédigés de façon manuelle. Le conseil municipal de Trois-Rivières a en effet adopté une résolution mardi soir octroyant un contrat de 4 145 941 $ pour obtenir des services professionnels de support et d'accompagnement sur une durée de 20 ans pour l'implantation d'un logiciel de gestion policière. Ce contrat inclut le support technique et les licences avec l'option de remplacement de la console téléphonique. Et dans le droit, section sport, Marc Brassard, les observateurs qui pensaient que la carrière de Mike Hoffman serait affectée négativement par les accusations de cyber-intimidation dirigées vers sa fiancée Monica Carrick, par l'épouse de son coéquipier Eric Carlson, étaient apparemment dans les patates. Le franc-tireur a été échangé deux fois mardi. D'abord par les sénateurs d'Ottawa qui l'ont refilé aux Sharks de San Jose en retour de l'attaquant Mikael Boudker, et du défenseur Julius Bergman et d'un choix de sixième ronde en 2020. Le DG Pierre Dorion cédant aussi le défenseur des mineurs Cody Donaghy et un choix de cinquième ronde en 2020 pour régler ce cas problème. Et ensuite, un peu plus de deux heures après l'annonce de la transaction, vers les 8 heures mardi, les Sharks ont refilé le compteur de 20 buts lors des quatre dernières saisons aux Panthers de la Floride avec un septième choix contre des choix de quatrième et cinquième ronde au repêchage.
I can see you're thinking, baby, I've been thinking too, about the way we used to be and how to start anew. Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong, but I'm going where green if you'd like to come along. When I was starting out, I always wanted more. But every time I got it, I still felt just like before. Fortune is a fickle friend, I'm tired of chasing fame. And when I look into your eyes, I know you feel the same. Our heads upon the grass and listen to it grow. Splendor, and at night you can see the stars. Life's been moving oh so fast, I think we should take it slow. Rest our heads upon the grass and listen to it grow.
On vient d'entendre la pièce Splendor in the Grass, extrait de l'album du même nom par la formation Pink Martini, avec, comme vous l'avez peut-être remarqué, un extrait du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski.
« Il en est question dans tous les journaux, en tout cas les journaux montréalais, du plus récent film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Et je vais vous lire la critique de François Lévesque dans Le Devoir d'aujourd'hui, une critique qui est très positive, autant dans le Journal de Montréal, La Presse, que Le Devoir. « Philo et Mago », c'est le titre de sa critique. Denis Arcand offre un film intelligent et divertissant avec la chute de l'Empire américain. Témoin d'un braquage raté, Pierre-Paul, un docteur en philosophie qui gagne sa vie comme coursier, se retrouve avec deux sacs pleins d'argent. Tiraillé entre sa nature altruiste et son désir de profiter de l'existence, il trouvera en une escorte de haut vol et un ancien motard réhabilité deux alliés inattendus. Au vu de son affiche, une statue de la liberté armée d'une mitraillette et dont la torche fait flamber des billets verts, on craignait le pire pour le nouveau film de Denis Arcand. Or, la chute de l'Empire américain se révèle un beau cru. Surtout, cette comédie dramatique, ou drame comique selon la sensibilité de chacun, exude un réel bonheur de raconter et de transmettre de la part du cinéaste. Raconter une histoire bien ficelée, fertile en rebondissements et en réparties spirituelles. Transmettre aussi un savoir, des connaissances sur le fonctionnement du capitalisme, sur ses turpitudes et ses conséquences sur l'humain. Fut-il membre d'un gang de rue par désœuvrement, Patrick Abélard, très juste, policier, Maxime Roy et Louis Morissette, solide, financier, Pierre Curzi, suave, caissière, Florence Lompré, remarquable, sans-abri, Vincent Leclerc, touchant, prostituée, Marie-Pierre Morin, parfaite, ex-détenu, Rémi Girard, impec, ou livreur adepte de Spinoza, Alexandre Landry, merveilleux. Énergique, la réalisation maintient un rythme tendu qui se relâche, ici le temps d'un interlude amoureux sur le Mont-Royal, là à cause d'un montage incisif sur le fonctionnement des paradis fiscaux. Quant au trio dépareillé, Landry, Morin, Girard, il affiche une chimie délicieuse. Les nuances sensibles du premier, la confiance tranquille de la seconde et l'aisance experte du troisième se mettent mutuellement en valeur. D'une érudition tour à tour hilarante et fascinante, les dialogues se font parfois didactiques. Bémol aussi lors du dénouement qui s'étire, quoique la finale proprement dite émeuve, à l'instar de la poignée de plans qui close le film. À terme, Denis Arcand offre un portrait de société rendant compte d'une curiosité et d'un humanisme renouvelé. Un beau cru, oui. Quelques jours de la fête nationale, les fans de ces icônes de la musique au Québec, que sont Serge Fiori et Richard Séguin, auront une raison de plus de célébrer. Dès le 22 juin, les versions remasterisées de l'heptade, harmonium et 200 nuits à l'heure, Fiori-Séguin, seront offertes sur toutes les plateformes d'écoute en continu. L'arrivée numérique de ces deux albums mythiques permettra aux amateurs du monde entier de renouer avec des pièces phares du répertoire musical. Chansons noires, comme un fou ou viens danser. Quelques 400 000 exemplaires de l'heptade se sont vendus depuis la sortie du disque en 1976. Quant à sa version remixée, elle s'est écoulée à plus de 40 000 exemplaires en 18 mois. Soulignant la réunion entre Fiori et Séguin, 40 ans après sa sortie, la réédition de 200 nuits à l'heure compte déjà plus de 12 000 albums vendus depuis son lancement le 11 mai dernier. Et toujours dans le milieu de la musique, Paul McCartney dévoilera aujourd'hui deux chansons qui figureront sur un nouvel album qui sortira à l'automne prochain, 5 ans après New. Une ballade et une chanson plus rock qui auront pour titre I Don't Know et Come On To Me. La semaine dernière, M. McCartney a donné un spectacle secret dans un pub de Liverpool, de Philharmonic. Avant-hier, l'ex-Beatle a eu 76 ans. Impressionnant. Le jeune Danny, qui fuyait son père psychopathe dans l'hôtel Overlook, sera incarné adulte par l'acteur Ewan McGregor dans la suite de The Shining, chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, qui sera intitulé Dr. Sleep, d'après le roman de Stephen King, auteur de The Shining. C'est Mike Flanagan qui tournera cette suite prévue pour 2020, dans laquelle Danny est devenu un médecin qui combat, comme son père, le démon de l'alcoolisme et qui use de son mystérieux pouvoir, le fameux Shining, pour sauver une fillette menacée comme il l'a été enfant. Le Comic-Con continue de révéler les personnalités qui seront de passage au Palais des congrès de Montréal du 6 au 8 juillet. C'est maintenant Val Kilmer qui s'ajoute à la liste des invités d'honneur. L'acteur qui s'est fait connaître dans les films Top Secret, Top Gun, Willow, The Doors et Batman Forever participera à des séances photos et de signatures d'autographes. On a récemment appris que Val Kilmer, qui s'est fait discret dans les dernières années en raison d'un cancer au larynx, sera de la distribution de la suite de Top Gun avec Tom Cruise, qui devrait sortir dans la prochaine année. Les salles de cinéma ont suscité en 2017 un regain d'intérêt de la part des Québécois, l'assistance ayant cru de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette petite poussée vers le haut s'explique en partie par la bonne performance du cinéma québécois qui colore les statistiques publiées mardi par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec. L'attrait des salles s'est fait sentir dans l'ensemble des régions, y compris à Montréal, qui a connu un timide bond de 2 %. Tranchant avec la baisse enregistrée ces dernières années, 12 % en 5 ans. Le cinéma national y est bien ancré avec des parts de marché supérieures à 15 % dans toutes les régions du Québec, sauf à Laval, 10 % et à Montréal, 6 % Les majors conservent néanmoins la part du lion, recueillant les deux tiers des projections et monopolisant 69 % de l'assistance. Tour d'horizon en 6 chiffres clés. 520 nouveautés projetées en salle au Québec en 2017. De ce nombre, 21 % ont été distribués par les grands studios américains. 61 nouveautés québécoises ont pris l'affiche en 2017, un nombre conséquent avec la moyenne des 5 dernières années fixée à 64. Ce chiffre a connu une forte croissance en 2 décennies. En 1995, on ne comptait que 15 nouveautés québécoises. 3 films ont franchi le cap des 600 000 entrées en 2017, De Père en flic 2, La Belle et la Bête et Bon Cop, Bad Cop 2. En 2016, aucun film n'avait atteint ce plateau. 10,2 %, c'est le taux moyen d'occupation des salles en 2017, ce qui marque une légère hausse après le creux historique de 9,6 % observé en 2016. 16 %, c'est le recul qu'accuse l'assistance aux films projetés en 3D en 2017. La part de l'assistance à ce type de projection se chiffre à 17 % alors qu'elle était de 22 % en 2016. Et finalement, 69,6 % des films projetés en 2017 l'ont été en français, 29,3 % en anglais, ne laissant qu'un marginal 1 % aux autres langues.
Une main sur une épaule, chacun a bien joué son rôle. Rideau, monté, descend, un musicien se serre les dents. Yeah.
tien, monte et descend.
On a mis quelqu'un au monde, on devrait.
Malgré sa durée de 7 minutes, on s'est fait plaisir aujourd'hui en route vers la Saint-Jean. C'était Harmonium, tiré de l'album du même nom, 1974, un musicien parmi tant d'autres.
Musicalement, et bien de d'autres points de vue aussi, là, mais ça se passe à Canal M, hein, on vient de le comprendre, parce que c'est vrai que des chansons de 7 minutes, on n'en entend vraiment pas beaucoup sur les autres ondes. Alors maintenant, pour revenir à nos moutons, si je puis dire, avec les sujets libres cette fois, dans la mise à jour de la presse, le premier ministre Justin Trudeau durcit le ton envers l'administration Donald Trump et ses politiques d'immigration qui forcent la séparation des enfants migrants de leurs parents. Avant de participer à la dernière réunion du caucus libéral, alors que les travaux de la Chambre des communes doivent prendre fin aujourd'hui, le premier ministre a affirmé que la situation qui prévaut aux États-Unis est inacceptable. Ce qui se passe aux États-Unis est inacceptable. Je ne peux imaginer ce que ces familles sont en train de vivre. Ce n'est pas comme cela que l'on fait les choses au Canada, a déclaré sur un ton solennel le premier ministre. Pour s'assurer que le message se rende rapidement à Washington, Justin Trudeau a répété la même déclaration en anglais. Plus tôt cette semaine, M. Trudeau avait refusé de critiquer les politiques d'immigration de l'administration Trump, affirmant ne pas vouloir jouer à la politique autour de la mesure controversée aux États-Unis, qui consiste à séparer les enfants migrants de leurs parents lorsqu'ils franchissent illégalement la frontière américaine. Depuis avril, les enfants migrants arrivés du Mexique à la frontière américaine sont séparés de leur famille dans la foulée de la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro face à l'immigration illégale annoncée par le procureur général Jeff Sessions. Plus de 2300 enfants et jeunes migrants ont ainsi été séparés en 5 semaines de leurs parents, qui ont été accusés d'avoir franchi illégalement la frontière des États-Unis, selon des chiffres actualisés lundi par l'administration Trump qui montre une accélération de cette pratique. Le gouvernement américain est l'objet depuis quelques jours de vives critiques concernant cette politique de tolérance zéro. Le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies a qualifié cette pratique d'inadmissible. Depuis lundi, le NPD presse le gouvernement Trudeau de mettre fin à l'entente sur les pays tiers sûrs avec les États-Unis à cause de la situation qui prévaut au sud de la frontière. La pratique de l'administration Trump est inhumaine et fait porter sur les enfants le fardeau de conflits politiques internes, a notamment déclaré cette semaine le chef parlementaire du NPD, Guy Caron. L'Organisation des Nations unies dénonce aujourd'hui la situation et exhorte Washington à cesser immédiatement cette pratique cruelle et inhumaine. Pour l'heure, le président Donald Trump résiste aux pressions exercées par la communauté internationale et au sein même de son propre parti. Lundi, il a déclaré qu'il empêcherait les États-Unis de devenir un camp de migrants, tout en accusant les démocrates d'être responsables de la situation. « Nous ne jouerons pas à la politique là-dessus. C'est une situation extrêmement difficile et nous reconnaissons à quel point c'est important de ne pas mêler les choses », avait déclaré le premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes lundi. Les Nations unies ont déterminé que pour les demandeurs d'asile, les États-Unis demeurent un tiers parti sûr, mais en même temps, nous nous devons de faire plus pour protéger les gens vulnérables qui sont en migration à travers le monde. Dans Opinion dans la presse, congestion routière. Chaque jour de semaine, dans les grandes villes du Québec, les Québécois transportent avec eux 25 millions de sièges vides dans leurs voitures, dont 14,8 millions dans la région de Montréal. Les problèmes de congestion qui s'aggravent sont causés par une vérité qui dérange. Nos routes sont saturées de voitures vides. C'est un texte de Jérôme Laviolette, chercheur invité en transport et changement climatique à la Fondation David Suzuki et 3 autres signataires. Pour bien comprendre d'où vient ce chiffre et ce qu'il signifie, prenons l'exemple de Montréal. Les grandes enquêtes origine-destination réalisées tous les 5 ans nous permettent d'évaluer avec précision le nombre de déplacements effectués selon chaque mode de transport et donc le nombre de voitures sur nos routes et le nombre de sièges vides et occupés de ces voitures. Pour le Grand Montréal, on parle de 14,8 millions de sièges vides chaque jour et de 3,7 millions seulement durant la pointe du matin. En moyenne, nos voitures se déplacent avec seulement 1,2 personnes à bord durant la pointe matinale. Au vu des problèmes endémiques de congestion que vivent les automobilistes du Grand Montréal, de Québec, mais aussi de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Gatineau, on pourrait être porté à croire qu'il existe au Québec un problème de capacité routière pour lequel la solution passe par des élargissements et des prolongements d'autoroutes. En réalité, nous n'avons pas un problème de capacité, mais plutôt un problème d'optimisation et de répartition. Pour fluidifier nos routes, nous devons optimiser leur usage et celui de notre parc automobile. Nous devons donc remplir des sièges. Il est évident que les 25 millions de sièges ne peuvent être comblés du jour au lendemain. Mais il existe toutefois plusieurs mesures qui peuvent être mises en place pour favoriser l'adoption du covoiturage quotidien par nombre de Québécois. En reprenant l'exemple du Grand Montréal, en passant d'un taux d'occupation de 1,2 actuellement à 1,4 en pointe matinale, le nombre de véhicules déplacés sur les routes diminuerait de 14 %, soit environ 180 000 voitures de moins pour cette période seulement. Un impact majeur qui pourrait être atteint en quelques années à peine. L'arrivée des applications mobiles et des plateformes de géolocalisation et les changements culturels qui s'effectuent à grande vitesse à l'heure de l'économie collaborative ouvrent de nouvelles occasions pour développer le covoiturage. Encore faut-il créer les conditions réglementaires et les incitatifs financiers qui permettront à cette pratique bénéfique pour l'environnement, l'économie et la société de prendre son envol. Comment s'y prendre alors? On doit mettre en place des règles et des incitatifs qui permettront aux covoitureurs d'y trouver leur compte. Tout d'abord, on pourrait offrir aux covoitureurs les meilleures places sur les lieux d'emploi et aux pôles de transport collectif, ainsi qu'un rabais significatif ou même la gratuité sur leurs tarifs de stationnement. On pourrait aussi développer le réseau de voies réservées autorisées aux covoitureurs afin de leur permettre d'éviter une partie de la congestion et ainsi réduire leur temps de parcours. Finalement, en assouplissant la réglementation, on pourrait offrir des compensations financières plus élevées tout en s'assurant de ne pas faire une compétition déloyale au service de taxi. Pour aller plus loin encore, on pourrait même imaginer une intégration centralisée de l'offre de covoiturage au sein des applications de transport collectif, comme cela se fait actuellement dans la région parisienne, et même d'une intégration tarifaire grâce à des cartes de transport multimodales. À l'heure de la nouvelle mobilité de l'économie collaborative, il est temps de cesser d'investir des milliards dans des infrastructures routières qui transportent des voitures vides et plutôt investir dans l'optimisation de notre réseau et de notre parc automobile. Déplacer plus de gens dans moins de voitures à moindre coût, voilà le défi que nous devons relever. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. On se retrouve demain et ce sera presque l'été puisqu'il arrive à 10 h et des poussières. Merci Jean-Sébastien Laliberté.